Torah a prévu que ça dure 11 ans. Comme tout le monde sait, ça a duré 40 ans. Raison pour laquelle ça a duré 40 ans, elle est exposée ici dans Parshat Shlach Lecha. Il s'est passé quelque chose de gravissime. Bon, je dis juste pour mémoire que les Bnei Israël ont été condamnés. On va voir exactement pourquoi. Ils ont été condamnés et initialement, ça s'était dit sous la forme de condamnation définitive du clan d'Israël, avec même une proposition qu'Hachem a faite à Moshe Rabbeinu, de fabriquer un nouveau clan d'Israël à partir de lui. Finalement, ça s'est soldé par une destruction, mais la destruction de la partie du peuple qui avait vécu tous les événements fondamentaux depuis la sortie d'Égypte, à travers le passage de la mer, la guerre contre Amalek, et Matan Torah, le don de la Torah. Les gens qui ont vécu ça en tant qu'adultes vont tous mourir dans le désert, à l'exception de Caleb Ben Yefouné et Yoshua Bin Nun. Donc, ils sont les deux seuls personnages qui vont survivre. Alors, ce ne sont que les hommes adultes qui meurent. Les femmes, elles ne meurent pas. Enfin, elles ne meurent pas de cette manière-là, quoi. Ça ne veut pas dire que personne ne mourrait, mais elles mourront. Toutes les années, pendant 38 ans, il y a un 38e, si vous voulez, de la partie qui devait mourir, qui mourait à Tisha B'Av, la date du 9 Av, qui est la date où s'est passé effectivement cet événement absolument fondamental. Et du coup, les Bnei Israël qui vont entrer en Eretz Israël ne sont pas ceux qui ont vécu en direct, en tant qu'adultes, ces événements fondateurs du peuple juif, en fait. Il y a leurs enfants, ceux qui étaient mineurs, ceux qui n'avaient pas 20 ans, en tout cas, disons, au moment de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que personne ne pourra, à l'exception donc de Caleb et de Joshua, personne ne va dire, par exemple, au premier Seder qui aura lieu, Seder de Pessah qui aura lieu en Eretz Israël, personne ne pourra dire « j'y étais adulte » parmi les hommes, les femmes pourront le dire. Et donc, d'une certaine manière, ça va commencer une nouvelle époque dans le clan d'Israël avec des gens qui vont vivre sur un récit. Et nous sommes donc le peuple du récit. C'est pour ça que l'Agada Shel Pessah, l'Agada qu'on raconte à Pessah, joue un rôle tellement fondamental parce que c'est le récit à partir duquel nous vivons, en quelque sorte. Le récit de notre naissance, mais c'est un récit de la naissance du peuple juif. Ce n'est pas une transmission du père au fils, alors que le père y était et il raconte à son fils « j'y étais », etc. Ça n'existe plus. Le père, lui aussi, il est un fils du récit, en quelque sorte, si on peut parler comme ça. Bon, alors, c'est un changement absolument radical parce que pendant ces 40 ans pendant lesquels les Bnei Israël ont erré dans le désert, c'était une errance avec la protection d'Hachem, etc. Mais c'était une errance quand même, au sens où on n'allait pas vers un but bien précis, on attendait que ça se passe quasiment. On attendait que tout le monde soit mort. 40 ans, c'est aussi, le chiffre 40 est toujours associé à la naissance, plus exactement à la conception, c'est-à-dire entre la conception d'un enfant et le moment où on a affaire à quelque chose qui peut être considéré comme un embryon, puis ensuite un fœtus, etc. y a toujours ces fameux 40 ans, 40 jours, 6 semaines, 40 jours à peu près. Là, maintenant, c'est des années, bien sûr, mais c'est toujours le chiffre de 40 qui est fondamental. Pendant ce temps-là, malheureusement, dans la terre qui est la terre d'Eretz Kenan, le pays de Kenan, c'est le pays dans lequel les Bnei Israël vont aller s'installer, pendant ce temps-là, il y a 40 ans d'idolâtrie, 40 ans supplémentaires d'installation de l'idolâtrie dans ce pays. Donc, quand les Bnei Israël arrivent là-bas, ils trouvent une civilisation qui a 40 ans de plus d'idolâtrie que celle qu'ils auraient dû trouver en sortant d'Égypte. En 40 ans, il se passe beaucoup de choses. Et donc, quelque part, l'idolâtrie installée sur cette terre, elle est telle que, par exemple, on ne pouvait pas tolérer quelques idolâtres de par-ci, par-là, quand les Bnei se sont installés. Ils étaient obligés d'éradiquer tout ça. C'est un problème. C'est une autre façon d'entrer dans le pays. On n'est pas entré par le rayonnement des valeurs, etc. On est entré par la guerre. Mais la guerre, elle a été causée par l'épisode des Meraglim, l'épisode des explorateurs, qui est ce fameux événement, cet échec gigantesque du peuple. Alors voilà, ça commence au début de Parshat Shlach Lecha, mais celles qui ont un chumash devant elles, vous devez en même temps ouvrir un Parshat Shlach Lecha, mais aussi en même temps un Parshat Dvarim, parce que au début du Sefer Dvarim, Moshe Rabbeinu, Dvarim, c'est le testament de Moshe Rabbeinu. Ouais. Donc, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu récapitule et il va expliquer ce qui s'est passé de façon différente de ce que la Torah nous dit. Alors, gardez sous la main, c'est donc le Advarim, c'est la troisième montée, c'est le verset Vatikrubun Kavbet. Donc c'est 1:22 de Dvarim, en même temps que Shlach Lecha ici, donc le Perek Yud Gimel au début, donc 13 de Bamidbar et 1 de Dvarim. Alors on regarde comment ça se présente chez nous maintenant. Donc, Vaidaber Hashem el Moshe, les mots. Hashem parle à Moshe Rabbeinu et il lui dit, tu vas répercuter ça au Bnei Israël, et il lui dit, Shlach lecha anashim viaturu et eretz kenan asher ani noten livne Israël ish echad lemate avotav tishlachu kol nasi bahem. Hachem donne un ordre à Moshe Rabbeinu. Comme toujours, Vaidaber, c'est toujours une parole dure. C'est un ordre. Et il lui donne l'ordre. Et il dit, Shlach, envoie. Mais avec un bémol. Shlach, lecha. Ça veut dire, lecha. Lecha, ça veut dire pour toi. Comme dans le lech lecha d'Abraham Avinu. Va pour toi. Pour toi, ça veut dire, c'est toi, c'est d'une certaine manière, c'est l'envoi, il n'est pas pour moi. D'ordinaire, ce que je te donne l'ordre de faire, c'est pour moi, même si ultimement, pour moi, ça ne veut pas dire que qu'Hachem a besoin de quoi que ce soit, mais les choses se présentent comme si il s'agissait ici de quelque chose qu'Hachem demande pour lui, en fait. Et maintenant, il lui dit Shlach lecha, on va voir dans Rashi. Anashim. Anashim, ça veut dire des hommes, mais dans la Torah, dans la chaîne de la Torah, Anachim, ça veut dire des hommes chashuvim, des hommes importants, des gens bien, quoi, si vous voulez. Veyaturu et Eretz Knaan. Et ces gens-là, ils vont, en fait, explorer. Veyaturu, c'est la chaîne tourisme. Veyaturu. D'accord, c'est, ils vont explorer le pays, ce pays de Knaan, donc c'est Asher Ani Noten Livne Israël, que moi, donc c'est Hachem qui parle, je donne au Bnei Israël, et tu enverras Ish Echad, un homme, le Maté Avotav, par tribu paternelle, en fait. C'est ça que vous allez envoyer, et ces gens-là que vous allez envoyer, Kol Nasi Bahem, tous seront des princes. Le Siim, des princes. Princes ou des chefs. Et alors, Hachem, Moshe Rabbeinu nous fait ce qu'Hachem lui a demandé. Et le verset, dans le verset 3, il est aussi dit que Vaishlach Otam Moshe Mibidbar Paran, Moshe Rabbeinu les a envoyés. Le point de départ, c'est le désert de Paran. Le désert de Paran, c'est le désert dans lequel ils sont entrés en sortant du désert du Sinaï. Ils ont passé du désert de Sinaï au désert de Paran. Et vous voyez, regardez le texte. Le texte dit « Alpi Hachem ». Il les a envoyés « Alpi Hachem ». C'est-à-dire, littéralement, « Alpi Hachem », ça veut dire « sur l'ordre d'Hachem ». Ici, alors c'est un peu étrange parce que en haut, il lui a dit « Shlach », mais je te dis de l'envoyer, mais c'est pour toi. Mais Hachem se mêle de l'affaire. Je t'ai dit d'envoyer. Moi, je ne te dis pas d'envoyer. Maintenant, si tu envoies, mais du coup, c'est Hachem qui va dire qui on va envoyer finalement. Et puisqu'il les, on les envoie Alpi Hachem sur l'ordre d'Hachem, donc ces gens vont être des Anachim, etc., comme Moshe Rabbeinu en a reçu l'ordre. Et puis, on nous donne la liste. Les 12 tribus avec, pour chaque tribu, le représentant de la tribu. Il faut comprendre que le représentant de la tribu, c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, représente vraiment la tribu. Quelque part, quand on veut parler à la tribu, on lui parle à lui. Il est censé représenter, c'est-à-dire avoir en lui des qualités qui sont caractéristiques de cette tribu. Alors, je saute la liste de... Juste, je prends le dernier verset sur le choix. Le pasouk dit au pasouk Tetzain, au pasouk 16, « Shemot ha'anashim asher shalach Moshe, la tour et ha'aretz » Donc, ceci, ce qui vient d'être cité, ce sont les noms des gens que Moshe Rabbeinu a envoyés. Et là, le texte précise, Vaikra Moshe le Hoshea bin Nun, Yoshua. Le représentant de la tribu, le chef de la tribu d'Ephraïm, c'était Hoshea bin Nun. Hoshea, c'est un nom qu'on connaît, c'est le nom d'un des prophètes. Dans les 12 prophètes, il y en a un qui s'appelle Hoshea, traduit en français Osée. Hoshea, c'était le nom du représentant de la tribu de la tribu d'Éphraïm. Et Moshe Rabbeinu a changé son nom. Il l'a nommé Yehoshua, c'est-à-dire en fait, il a mis le Yud avant son nom. C'est Hoshea, Yud avant, ça fait Yehoshua. Alors, ce que ça provoque, c'est que si maintenant vous regardez le nom de Yoshua, Yoshua a les trois premières lettres du tétragramme, Yud Kei Vav, et si on prend seulement les deux premières, c'est déjà un nom divin. Yud He, un Yud et un He, c'est un nom divin. Donc, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a fait? Il a ajouté à Hoshea, il lui a mis un nom divin en lui pour le protéger. Alors, ce Yud, on dit qu'il vient que c'est le Yud de Sarai. Vous vous souvenez probablement que quand Sarai est devenue Sarah, on a enlevé le Yud qui était à la fin de son nom. Sarai, ça voulait dire ma princesse. Et Sarah, c'est la princesse. Donc le Yud qui était enlevé à Sarah, à Sarai, oui. Certains disent que c'est lui, là, ce Yud que Moshe Rabbeinu, il l'a récupéré, il l'a mis. Donc le Yud, il est en quelque sorte monté en grade, parce qu'il était à la fin du nom, et maintenant il est en tête du nom. Maintenant, c'est une des lectures, vous savez bien qu'il y a d'autres lectures qui disent que Yud, c'est le Yud de Sarai. Yud, c'est 10, c'est la valeur numérique 10. Et 10, on peut, 10, c'est 2 fois 5. Donc 2 fois 5, ça veut dire 2 fois Hé. Ça veut dire que le Yud est devenu un Hé à la fin de Sarai. D'accord, c'est Sin, Reish, Hé, 5. Et puis le deuxième Hé, c'est celui de, qui a transformé Avram en Abraham. Donc, quelque part, ce Yud, il y a d'autres explications. On peut imaginer aussi que ça fait tout à la fois. Mais donc ce Yud-là, il a donné naissance à deux Hé, il a changé les deux noms. Donc là, c'est aussi quelque chose sur laquelle, une chose à laquelle on peut réfléchir, que ce soit le Yud de Sarah qui a finalement changé à la fois Sarah, mais aussi Abraham. Bon, le Hé d'Abraham, il vient aussi de Sarah. Comme si Sarah avait donné naissance à Abraham. Abraham, il était Abraham, son mari, il est devenu Abraham. En devenant Abraham, avec ce que ça dit, vous vous souvenez de la gématria, de la valeur numérique d'Abraham, qui indiquait que le corps était complet désormais. Ça vient aussi avec la Mila en même temps. Donc, en tout cas, voilà le Yud. Donc, Yoshua, parmi les 12 explorateurs, il a un statut à part. C'est l'élève de Moshe, ça on le sait. Et Moshe Rabbeinu a éprouvé la nécessité de le protéger. De protéger de cette manière-là. OK ? Ça, c'est le... Il a protégé aucun des autres de cette façon-là. Et il les a envoyés. La tour est Eretz Knan pour justement explorer ce pays de Knan. Et il leur a dit comment y entrer. Vous entrez par le sud, par le Negev, etc. Si maintenant, allez regarder dans Dvarim, le récit que Moshe Rabbeinu en fait. À la fin de sa vie, quand Moshe Rabbeinu raconte sa vie, en quelque sorte sa vie avec le clan d'Israël, voilà ce qu'il dit. Au verset 22. Kavbet. Vatikruvun elai kulchem. Vous vous êtes approchés de moi, tous. Vatomru, et vous avez dit, Nishlecha anashim lefanenu, veyachperu lanu et haaretz. Viashivu otanu davar, et aderech ashena aleba, veteharim asher navo alehen. Vayitav beinai, הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשרת. Donc, Moshe Rabbeinu décrit la chose complètement différemment. Moshe Rabbeinu, quand il leur parle, il leur dit, voilà, vous vous êtes approchés de moi. Et on explique qu'effectivement, ils se sont approchés de Moshe Rabbeinu, mais de façon très désordonnée, pas du tout structurée. Donc c'est une espèce de démarche dans le désordre, pas vraiment, c'était pas une bonne démarche en fait. Et vous avez dit, envoyons des gens en avant, disons devant nous, en éclaireur. Ve'yachperu, ils n'ont pas dit, vous allez explorer. Ve'yachperu, alors ici ça se traduit plutôt par espionner plutôt que explorer. Crofer, c'est creuser. Khafira, c'est un creux, un trou. Yarperou, c'est espionner. Qu'ils viennent, qu'ils en, eux, ils envoient des espions. Moshe Rabbeinu, il a l'air d'envoyer seulement des explorateurs. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ils disent, ces gens-là vont revenir et ils vont nous rapporter davar, rapporter une parole. Nous, on dirait, ils vont nous faire un rapport. Et le rapport, il est sur quoi? C'est le chemin qu'il faut prendre, c'est-à-dire pour envahir le territoire, il faut savoir par où on entre. C'est ça que les Bnei Israël voulaient entendre dans le rapport des espions qu'ils envoient. Et ils veulent aussi savoir quel est l'état des villes, est-ce qu'il y a des villes fortifiées ou des villes qui ne le sont pas. Par quelle ville il faut commencer la prise du territoire, en fait. Et Moshe Rabbeinu dit, ça m'a plu. Ça m'a plu. Et j'ai pris 12 personnes parmi vous, etc. Vous voyez, ce que Moshe Rabbeinu décrit, c'est il n'y a pas de présence d'Hachem dans ce que Moshe Rabbeinu décrit. Chez nous, la narration de la chose en tant que telle, dans Shlach Lecha, c'est une intervention d'Hachem dans l'affaire. Alors, comment est-ce qu'on concilie les deux? Alors, regardez, Rashi dit, comme toujours, enfin, comme souvent, dans toutes les parchiotes, mais en particulier dans Devarim, on pose la question de la juxtaposition des parchiotes. Le dernier sujet qu'on a traité avant Shlach Lecha, celui qu'on a traité la semaine dernière, à la fin de ce qu'on a lu la semaine dernière, on a lu l'histoire de Myriam. On a lu l'histoire du Lashon Hara, de cette fameuse médisance de Myriam et d'Aaron sur Moshe, et la sanction d'Aaron et de Myriam, on parle surtout de celle de Myriam ici. Alors, Rashi dit, pourquoi avoir juxtaposé ces deux parchiotes? Alors, Rashi répond, le fils est, parce que Myriam, elle a été frappée à cause du Lashon Hara qu'elle a dit contre Moshe. Et ces Rechaïm, c'est le Rashi, les voit déjà comme ce qu'ils vont être par la suite, des Rechaïm. Ils ont vu ce qui s'est passé, parce que tout le monde a été au courant de ce qui s'est passé pour Myriam, puisque le peuple a dû attendre avant de se remettre en marche que Myriam soit sortie de cette période de Tzara'at, on traduit par la lèpre, mais ce n'était pas la maladie de la lèpre, mais c'était donc cette manifestation sur la peau, jusqu'à ce qu'elle soit guérie, c'est-à-dire qu'elle soit considérée comme pure, et qu'elle puisse marcher avec eux. Et donc tout le peuple a attendu Myriam. Donc, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Et ces gens-là, que Rashi décrit déjà comme étant des Rechaïm, alors que là, ici, ils sont encore des Tzadikim, c'est les justes ici qui ont été choisis. Ils n'ont tiré aucun moussard, ils n'ont tiré aucune leçon. Bon, ça c'est quant à la juxtaposition. Ensuite, Rashi commente, Shlach Lecha envoie pour toi les datra. C'est parce que c'est ton date. C'est toi qui penses qu'il faut le faire. Et Rashi précise qu'Hachem lui a dit, Ani eini metzaveh lecha. Je ne te l'ordonne pas. Bien que ça commence Vaidaber Hashem el Moshe, mais c'est pas je ne te le donne shlach, mais lecha. Moi je te le donne, je ne te ordonne pas de le faire. Im tirtze shlach. Si tu veux, envoie. Là dans Dvarim, mon cher Rabbeinu a dit moi ça m'a plu. Et Rashi cite ce qui sera dit dans Dvarim. Le fils, Israël, Nishlecha, Anashim, Lefanenu. Donc, il cite le verset qu'on a lu dans Dvarim. Seulement, ici, Rashi dit « Ou Moshe nimlach bashchina ». Moshe Rabbeinu a pris conseil d'Hachem. Alors, ça, c'est marqué nulle part, en réalité. D'accord ? C'est Rashi qui explique. On s'élimine Rashi, mais c'est Rashi qui explique. Dans le texte, on ne voit pas que Moshe ait pris conseil, ni chez nous, ni dans Dvarim, où Moshe Rabbeinu ne parle pas du tout d'Hachem. Mais Rashi dit, « Onimlach bashrina », il a consulté la Shrina. Il a consulté la présence divine dans le monde, dans le clan d'Israël. Et donc, voilà, la réponse d'Hachem, c'était la suivante. Hachem lui a dit, « Ani amarti lahem shei tova ». Moi, dit Hachem, je leur ai dit que le pays était bon. Donc, quelle nécessité d'envoyer des explorateurs, des espions, n'importe, pour savoir ce qu'il en est. J'ai dit que c'était bon. Donc, c'est bon. Et où est-ce qu'il a dit une chose pareille ? Parce qu'Hachem a dit, il a dit au Bnei Israël, au moment de la sortie d'Égypte, il leur a dit, allez etrem mi oni mitzraim, je vous ferai monter de la pauvreté, de votre statut absolument nul en Égypte, vers cette terre. Donc, je vous ai dit, et dans la suite du verset, c'est marqué que la terre est bonne. Alors ici, Rashi rapporte un midrash Tanchuma, en fait, et aussi la Gemara dans Sota, qui est à s'arracher les cheveux, je veux dire, c'est terrible. Chayehem, par leur vie, c'est un serment que Hachem fait. Shani noten lahem makom lit'ot bedivrei amraglim. Donc ici, Hachem dit, je vais leur donner une possibilité de se tromper. Et alors là, ce n'est pas très clair comment il faut traduire, parce que ce qui est écrit, c'est bedivrei amraglim. Ça veut dire, est-ce qu'ils peuvent se tromper quant à ce que disent les meraglim? C'est-à-dire que c'est le peuple qui se serait trompé? Ou bien, ils vont se tromper sur la situation à cause de ce qu'ont dit les meraglim? Comme les meraglim sont leurs chefs, sont les chefs des tribus, donc ils ont beaucoup de poids dans ce qu'ils disent, donc ils disent quelque chose que le peuple va entendre et qu'il va faire sien. Je veux dire, le peuple va accepter, il va prendre tout à fait au sérieux ce que disent les explorateurs. Et donc, je leur donne une possibilité de se tromper. Et alors, le plus terrible, les Ma'an, afin que l'Oirachoua, pour qu'ils n'héritent pas de cette terre. Donc, c'est une vraie clala. On a l'impression que, c'est... Hachem dit, ils vont... Alors, la question qu'on ne peut pas se poser, c'est... Hachem les avait déjà condamnés, ça veut dire ici, c'est terminé. Si Hachem dit, je leur donne la possibilité de se tromper pour qu'ils n'héritent pas de la terre. Une possibilité pour qu'ils n'héritent pas obligatoirement, parce que à cause de possibilité de se tromper. Possibilité de se tromper, ça ne veut pas dire qu'ils n'hériteront pas. Ils pourraient se tromper. Il faudrait qu'ils soient très forts. Parce que Hachem a dit la terre, elle est bonne. Ce pays est bon. Et ils ont un doute. Supposer, ils n'ont pas confiance en Hachem. On a beaucoup de mal à comprendre comment ces gens-là, ayant vécu ce qu'ils ont vécu, ils peuvent ne pas avoir confiance en Hachem. Alors, c'est les gens qui ont été pris, qui sont sortis d'Égypte. qui ont passé la mer, qui ont fait la guerre contre Amalek, gagné la guerre contre Amalek, qui ont reçu la Torah, qui étaient au Sinaï, qui ont atteint au Sinaï un niveau absolument extraordinaire. Et ces gens-là, ils ne sont pas sûrs, ils ont un doute. Quand Hachem leur dit « la terre est bonne », ils ont un doute. Toi, ils ont un doute. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va le voir dans le texte, mais vous le savez bien. Au retour, il y a 10 des 12 explorateurs qui disent qu'il ne faut pas y aller. À part Caleb et Joshua, les autres disent qu'il ne faut pas y aller. Donc maintenant, ils avaient un doute. Et maintenant, ils ont 10 de leurs chefs qui leur disent qu'il ne faut pas y aller. Où est-ce qu'ils vont prendre la force d'y aller quand même? Avant, ils avaient seulement à vaincre un doute, quoi, un peu, ok, c'est pas sûr. Mais là, il faudrait aller contre l'avis de ceux qui sont leurs chefs depuis. C'est pas, ils ne sont pas les chefs depuis aujourd'hui. C'est les chefs du peuple depuis la sortie d'Égypte. Dans la traduction de Stone, ils ont essayé d'arrondir un peu les angles. Ils ont traduit en disant « Je vais leur donner l'occasion d'éprouver la véracité de mes paroles au risque de se tromper et d'être ainsi privé du droit d'entrer dans le pays. » C'est arrondir les angles. Le Midrash, il est beaucoup plus dur. Bien. Alors, ils vont là-bas, ils entrent et ils reviennent. Mon cher Rabbeinu, dans le texte que nous avons devant nous, il leur a dit, observez la terre pour savoir un peu comment elle est. Regardez le peuple. Est-ce qu'il est fort ou non? Est-ce qu'il est nombreux ou pas? Regardez la qualité de la terre. Est-ce que c'est une terre qui est bonne ou mauvaise? Est-ce qu'elle est grasse ou est-ce qu'elle est sèche, etc. Quelles sont les villes? Est-ce qu'elles sont fortifiées? Est-ce que ce sont des villes ouvertes? Encore une fois, est-ce que la terre est grasse? Non. Est-ce qu'il y a sur cette terre, est-ce qu'il y a un arbre? Enfin, est-ce qu'il y a des arbres? Ou non? Et vous vous renforcerez et vous prendrez des fruits de la terre. Et on a une indication sur la saison. C'était le début des raisins mûrs. Rachid dit, sur cette histoire de l'arbre, en quoi c'est important qu'il y ait des arbres ou pas? Rachid dit, Ayeshba etz. Rachid dit, Adam Kacher. L'arbre en question, Rachid dit, c'est un homme Kacher, quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien qui est suffisamment bien, Sheyagin Alehem, le Sruto, qui les protège par son mérite. C'est-à-dire que s'il y a des gens bien, mon cher Rabbeinu se dit qu'on ne pourra peut-être pas conquérir le pays. Parce qu'il y a des gens qui, par leur mérite, vont protéger ce pays. Ça, il faut que vous le regardiez. Donc, c'est pas simplement nous dire par où on va conquérir. C'est un regard sur la qualité de, sur la civilisation, sur le pays dans lequel ils vont entrer. Pour voir ce qu'il y aura à vaincre. Mon cher Abel nous sait très bien que Hachem a dit qu'il va les amener là-bas. Donc, ils vont entrer. Mais le problème, c'est, est-ce qu'il va falloir qu'Hachem, en quelque sorte, nous aide au point de passer par-dessus le mérite de personnes qui protègent cette terre. Donc, eux, ils sont allés. Et ils ont pris des fruits. Les fruits qu'ils avaient, qu'ils vont ramener, sont des fruits absolument gigantesques. Bon, il faut se mettre à plusieurs pour porter une grappe de raisin. Il faut se mettre à plusieurs pour... Une personne tout juste peut porter une grenade, etc. C'est des fruits qu'on n'a jamais vus par la suite. Quand on est entré en Eretz Israël, on n'a jamais vu des fruits pareils. Alors vous pouvez toujours dire on ne les a pas vus parce que ça fait 40 ans. En 40 ans, ben c'est fini. L'agriculture avait périclité. Elle était plus capable de donner de tels fruits. C'est rien. En tout cas, on ne les a jamais vus. Donc, ils amènent un témoignage de l'excellence du pays. Encore qu'il faut se demander, est-ce que quand les choses sont gigantesques, est-ce que c'est vraiment une preuve d'excellence? C'est une espèce de maladie, quoi. C'est une obésité généralisée, quoi. Donc, ils reviennent après leur périple de 40 jours. Vayelchou vayavou, je suis au passo Kavav. Vayelchou vayavou el Moshe vel Aaron vel kol adat bnei Israël. Ils sont allés chez Moshe, chez Aaron et chez toute la communauté des bnei Israël. Dans le désert de Paran, à Kadesh. Et vayashivu otam davar. Ça, c'est les mêmes mots que ceux qui sont écrits dans Dvarim, Sefer Dvarim. Semble-t-il, là, ici, ce davar qu'ils ont ramené, c'est seulement, ils l'ont dit seulement à Moshe et à Aaron. Puisqu'après, c'est marqué « Ved kol ha'eda » et aussi après, seulement, à tout le peuple. D'abord, ils ont fait leur rapport à Moshe et à Aaron. « Vayarum et ri ha'aret » ils leur ont montré le fruit de la terre. Vaisapru lo, et ils lui ont raconté, Sipur, c'est un récit, et ils ont dit, Banu el haaretz asher shlachtanu, nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés, et c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et voici ses fruits. Donc, ils ont l'air de faire un rapport extraordinaire. Le pays, ça coule le lait, le miel, et voilà les fruits, etc. Ça a l'air très positif. À ce moment-là, ils disent un mot qui, dans la Torah elle-même, figure trois fois, qui est assez rare, qui ici veut dire, le mot c'est « Ephes ». En hébreu moderne, aujourd'hui, Ephes, ça veut dire zéro. Ici aussi, on peut le lire comme ça. Ils ont dit Ephes, mais ce que nous avons dit là, c'est nul. Pourquoi ? Ki az, ma'am, ma'yoshev ba'aretz. C'est très bien, mais ce n'est pas pour nous. Le peuple qui habite sur cette terre, il est très puissant. Harim et Harim, les villes, Petsurot, Gdolot, Meod, les villes sont fortifiées, elles sont très grandes. Et là-bas, on a même vu les descendants des géants. Amalek était au sud. Amalek, c'est pour faire peur à tout le monde, Amalek, c'est ceux qui ont attaqué. Eretz HaNegev, le Chiti, le Yevoussi, le Emori, dans les montagnes, le Cananéen, partout, etc. Et donc, voilà, ils disent, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Et à ce moment-là, Kalev intervient. Le pasouk dit, Vayahas Kalev et Aam, El Moshe. Vayahas Kalev et Aam sur Moshe. Le peuple a tout de suite commencé à murmurer contre Moshe, etc. Kalev les a fait taire. Et il a commencé, Kalev, comment est-ce qu'il a pu les faire taire? Il leur a fait croire qu'il allait parler contre Moshe, lui aussi. Rashi dit, « El Moshe, lishmoa ma shidaber be Moshe. » Savar ve'amar, Kalev a crié, « V'chizou bilvad asalanu ben Amram. » Est-ce que c'est seulement ça que Ben Amram nous a fait? Oui, à parler de Moshe Rabbeinu en disant qu'il est Ben Amram, le fils d'Amram, ça veut dire... C'est une façon méprisante de parler de lui, comme s'il avait, il a pas de nom, quoi. C'est un fils d'Amram. Est-ce que il n'y a fait que ça? Et donc, Rashi explique, Ashomea, Aya Savour, Shebal Saper Bignuto. Les auditeurs ont pensé que Kalev allait abonder dans le sens de dire du mal de Moshe. Et puisqu'ils en voulaient à Moshe à cause de ce que leur avaient dit les Meraglim, les explorateurs, alors ils se sont tous tus. Ils se sont tus pour écouter Kalev dire du mal de Moshe. Alors Kalev a continué, il a dit Valo kara lanu et ayam, orid lanu et aman. Aiguise la noueta slave. Finalement, il a fendu la mer, il nous a donné la manne, il nous a donné l'écaille. Et il a dit, contrairement à ce que disent les autres, mes 10 collègues là, qui disaient qu'on ne pourrait pas, il a dit « Allez, n'allez, birash nota, qui yachol nuchal la » Il dit « On va y aller et on va conquérir ce pays. On peut. » Lui, il pense, il a dit « Yes, we can. » Mais les gens ont répondu « Lo nuchal la lotelam. » « Lo nuchal. » On ne pourra pas. « No. » We can't. Impossible. Ki chazak hu mimenu. Ils ont dit pourquoi on ne pourra pas? Parce qu'il est plus fort que nous. A priori, ça veut dire le peuple est plus fort que nous. La graphie de Mimeno, elle permet évidemment de lire Mimeno. Mimeno, c'est plus fort que nous et plus fort que lui, que Mimeno. Mimeno, au singulier, c'est qui? C'est Hachem. C'est-à-dire, le peuple est plus fort qu'Hachem. Et... Là, du coup, jusque-là, ils avaient dit « on ne pourra pas », maintenant, ils vont donner des arguments pour expliquer que ce pays est mauvais, maintenant. Ce pays dont ils ont dit qu'il était très bon, maintenant, ils vont dire que ce pays est mauvais. Qu'est-ce qu'ils vont dire? « Vayotziu », ici, ça commence. « Vayotziu dibat haaretz, asher taru ota. » qu'ils ont sorti, ils vont dire du mal de cette terre qu'ils ont explorée. Donc ils le disent au Bnei Israël en disant, on a sur cette terre, on a quelque chose à dire, nous. Aharetz asher avarnu va la Tourota, ce pays par lequel nous sommes passés pour l'explorer. Eretz ochelet yoshveri, c'est un pays qui mange ses habitants. Et les gens qu'on a vus là-bas, c'est des gens énormes. Des montagnes, chaque bonhomme était, chaque personne était un monument. Des gens grands, forts, etc. Vesham raïnu et anfilim, bnei anak min anfilim. On a vu là-bas les Néphilim, c'est les fils des géants, c'est les Néphilim dont on parle dans le livre de Bereshit. Ils disent, et nous nous voyons par rapport à eux comme si nous on était des sauterelles. Et ils nous voyaient aussi comme des sauterelles. Alors il faut expliquer Eretz Ochelet Yoshvea. C'est un pays qui mange ses habitants. Sur quoi ils se sont basés pour dire une chose pareille? Partout où ils ont passé, où nous avons passé, pardon, disent-ils, il y avait des enterrements. Des enterrements partout. Donc eux, ils ont dit, s'il y a tellement d'enterrements, c'est que le pays mange ses habitants. Ve'akadosh Baruch Hu, alors Rashi explique pourquoi est-ce que c'était comme ça. Akadosh Baruch Hu asa le tova. En vérité, Hachem a fait ça pour leur bien. Que dès les tirdam bevelam, pardon, velo itnu lev la elu. Vous imaginez bien que 12 personnes étrangères qui passent, ça passe pas inaperçu. Pour que les explorateurs passent inaperçus, Hachem a fait en sorte qui est brassage de population là où ils étaient. Et pour brasser la population, rien de mieux qu'un enterrement. En enterrement, il y a des gens qui viennent de n'importe où, et du coup, ils pouvaient passer inaperçus. Donc Hachem a fait en sorte que les gens meurent pour permettre aux explorateurs de passer inaperçus. Et en même temps, dans la même phrase, ils disent, les gens de là-bas, c'était Anshe Midot. Les gens étaient des Anshe Midot. Et Rashi dit, Gdolim, ou Gvoim, c'est-à-dire la tête là, Mida. Gon Goliath, Avo Sheshamot, etc. Frendishman. Donc, il donne des exemples, Rashi, que dire que c'est des gens de Midot, des gens mesurables, ces gens, on ne peut pas dire que c'est des gens, on est obligé de dire, ah, celui-là, il a tant de mètres de haut, je ne sais pas. Et ça vient, ce qui est intéressant, c'est que dans le même verset, le pays bouffe ses habitants et les gens sont les géants. Pourquoi ça va ensemble? Vous vous souvenez, quand Abraham Avinu a commencé sa carrière, en quelque sorte, Hachem lui a donné le choix. Il lui a dit, tes descendants, qu'est-ce que tu veux pour eux? Est-ce que tu choisis la mort ou est-ce que tu choisis l'exil? Et Abraham Avinu a choisi l'exil. C'est quoi ce choix entre la peste et le choléra, c'est quoi? L'idée, c'est, ils ont comme ça la dynamique des populations, elle est telle qu'il y a le choix seulement entre la mort et l'exil. L'exil, d'abord il faut savoir, l'exil c'est une forme faible de mort. En exil, on n'est pas vraiment mort, mais on est mort à tout l'environnement auquel on était habitué. Quand on est exilé, d'accord, on a perdu le contact, on n'a plus les références, on ne connaît pas les chemins de traverse, on connaît pas, on ne sait pas où poussent les fraises, on ne sait pas où, on connaît rien dans le pays dans lequel on arrive. Et tout ce qu'on connaissait, tout ce qui permettait, par exemple, c'est une stratégie, on dit que les Assyriens, quand ils conquéraient les pays, ils faisaient des transferts de population. Parce que quand tu mets une population dans un pays qu'elle ne connaît pas, elle ne peut pas résister. Il n'y a pas de résistance possible, parce que la résistance, elle se base sur le fait qu'on connaît quasiment mieux le terrain que l'adversaire. Mais là-bas, ils ne connaissent pas le terrain. Donc on ne peut pas vraiment résister. C'est difficile. On ne connaît pas les cachettes, on n'a pas de référence, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui pousse, on ne connaît pas ni la flore, ni la faune, on ne connaît pas, on connaît rien. Donc, on ne peut pas vraiment résister. Donc, c'est une forme de mort légère. C'est d'ailleurs comme ça que c'est vu. Si quelqu'un tue, il est passible de mort. Et s'il tue par inadvertance, il est passible d'exil. On ne peut pas entrer maintenant dans tout ça, mais vous entendez, celles pour lesquelles en tout cas ça fait sens, entendent bien ce qui se passe. L'exil, c'est une forme faible. Mais c'est quoi la forme faible par rapport à la forme forte? Dans la forme forte, les puissances, c'était les puissances, la Syrie, l'Égypte, Rome, etc. C'est, si vous voulez, des civilisations qui ont vécu pendant un certain laps de temps et qui, pendant ce temps-là, sont devenues, à un moment donné, très très grandes, mais qui ont disparu par la suite. Donc, si vous voulez, c'est comme si on fait la courbe, en quelque sorte, c'est pendant un laps de temps, c'est pas très large, mais ça monte très haut. Ça, c'est la mort. C'est-à-dire, est-ce une civilisation mortelle, comme on dit, toutes les civilisations sont mortelles. Est-ce que tu veux que ton peuple devienne un grand peuple pendant un certain temps, qui va marquer l'histoire, je sais pas, ils vont donner un autre code civil, ou je sais pas, ils vont marquer l'art, ou peu importe, marquer le... Il y a des civilisations qui ont disparu, qui ont laissé des traces importantes. Ou bien, est-ce que tu veux que non, c'est ton peuple soit jamais très grand, mais qui dure. Donc, si vous voulez, c'est comme si l'intégrale est la même, quoi. C'est-à-dire, pendant un très court laps de temps, mais c'est très haut, ou bien alors c'est tout petit, c'est vraiment un me'at mikem. J'apprécie, dit Hachem, le fait que vous êtes un peu, vous êtes peu. Vous êtes peu, mais vous durez. Donc c'est ça le clan d'Israël. Abraham a choisi de durer plutôt que de mourir. Et le prix à payer, c'est de ne jamais être grand. Bien, là, ici, vous avez le phénomène inverse. C'est-à-dire, c'est un pays où on meurt beaucoup, mais les gens sont très grands. Ça veut dire qu'ils deviennent très, très grands, mais ils ne vivent pas longtemps. Donc, les gens meurent très rapidement. Et donc, il y a tout le temps les enterrements. Mais les gens, avant de mourir, on les voit, ils sont très, très, très grands. Et ça va de pair. En tout cas, c'était effrayant pour les gens. Ils ont interprété le pays mange ses habitants. Qu'est-ce qu'ils auraient dû dire? Hachem fait en sorte que nous passions inaperçus. Mais pour dire cela, il faut déjà avoir intégré qu'il faut regarder ce pays comme un pays qu'on va pouvoir conquérir parce qu'Hachem va nous le permettre. On n'aura pas affaire à une guerre ordinaire pour conquérir un pays. Nous, on ne fonctionne pas selon les règles de la guerre, les règles de la conquête. On fonctionne selon des règles que Hachem décide que les choses se passent de cette manière et il fait en sorte que ça se passe comme ça. Donc, s'ils avaient été capables de lire qui se passait devant eux correctement, ben, évidemment, pour pouvoir, enfin, je devrais le dire à l'envers, pour pouvoir le lire comme ça, il faut déjà avoir admis qu'on va entrer. Mais c'est mort, tu, au fond, on reste sur l'exploration et pas l'espionnage. La tour, pas l'arpore. C'est-à-dire, on a regardé et on aurait dû être capable de... Voilà, voilà, l'information qu'on a, c'est ce que nos yeux nous donnent. Et eux, ils vont dire des choses qu'ils n'ont pas vues. Ils vont dire des mensonges.
Ils n'ont excusez-moi.
Un instant. Ils n'ont pas vu que le pays mangeait ses habitants. Ils ont vu qu'il y avait des enterrements. L'information, c'est quoi ? Il y a beaucoup d'enterrements. Le reste, c'est un commentaire. Oui, Kim.
Oui. Oui. Ça veut dire que quand ils sont sortis d'Égypte, ils savaient qu'ils allaient recevoir...
Odile. Non, c'est Odile qui parle, oui ?
Oui, oui.
Alors, bon, votre voix, je la reconnais. Mais les gens, quand vous parlez, dites votre nom, parce que celle que je ne vois même pas parler, donc je ne peux pas deviner exactement, je ne sais pas à qui je parle. Donc quand vous parlez...
Excusez-moi, vous avez raison. Alors,
voilà. Vous pouvez dire quelle partie vous appartenez, vous donnez votre numéro de sécu, etc. Et après, vous pouvez parler.
D'accord. Quand ils sont sortis d'Égypte... Est-ce qu'ils ne savaient pas quel était le but de où est-ce qu'ils devaient atterrir, où est-ce qu'ils devaient aller, et ils ne s'étaient pas préparés à conquérir et à acquérir l'espace ?
Rien du tout. J'ai expliqué longuement que les Bnei Israël ne savaient même pas ce que ça voulait dire sortir d'Égypte. Personne n'était jamais sorti d'Égypte. Je vous ai expliqué que la raison pour laquelle ils ont pas préparé de pain, ils ont préparé le pain à la dernière minute, ça devenait des matzot. Ils savaient quel jour ils allaient sortir. Pourquoi ils n'ont rien préparé? Parce que ça voulait tellement rien dire de sortir d'Égypte qu'ils ont pas fait, on ne savait pas quoi faire. À la dernière minute, une espèce de réflexe, ils ont mis de la farine dans l'eau et voilà, et c'est tout. Ça fait des matzot. Mais ils n'avaient aucune idée. Ils ne savaient même pas, je vous répète, non seulement ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas Eretz Israël, bien sûr, et ils ne savaient pas que c'était là-bas qu'ils allaient aller. Hachem ne leur a pas dit tout de suite, d'ailleurs. Et puis, en plus, même s'ils leur avaient dit, ça n'aurait, ils n'ont aucune représentation. D'accord ? Il n'y avait pas, ils ne pouvaient pas regarder sur Google ce que ça voulait dire. Ils n'avaient aucune idée. Les Israël ont suivi, Hachem dit, c'est dans la bouche du Navi Yirmiya. Yirmiya dit, au nom d'Hachem, je te suis reconnaissante, l'Echter, Acharai Bamidbar, Beretz Lozroa, c'est tout. Tu m'as suivi dans le désert, dans un pays où on pouvait même rien semer. Allez, ils sont sortis dans le désert. Non, il faut, la vérité, c'est qu'il fallait être complètement fou pour accepter de sortir. On peut pas sortir. Ce qu'ils pouvaient savoir de l'Égypte. L'Égypte, c'est un truc très étroit. C'est la vallée du Nil. Et de part et d'autre, c'est la mort. Donc, les Bnei Israël n'avaient aucune idée. Je vous dis, ils savaient même pas ce que ça voulait dire vraiment sortir. Aucune idée.
Alors, donc, raison de plus de faire confiance en Hachem.
Voilà. Voilà, c'est pour ça que les femmes ont fait confiance à Hachem et elles ne les ont pas réclamées. Ce sont les hommes qui ont réclamé. Bon, je ne dis pas seulement ça parce que c'est un cours de femmes, hein. C'est vrai.
Rav Bronstein, c'est Shirley qui parle. Je voudrais vous poser une question. Par rapport, est-ce qu'il existe un lien entre le récit qui font là maintenant et qui est vécu? Et le fait qu'on ne pourra plus jamais faire de récits vraiment vécus au moment de Pessah.
Le lien, c'est qu'effectivement, ça n'aura jamais lieu. C'est-à-dire, visiblement, bon, Hachem qui sait tout évidemment à l'avance, il fait que nous sommes un peuple du livre, au sens de, pas parce que c'est un livre, mais un peuple du récit plutôt. C'est pas vrai, on n'est pas le peuple du livre, mais on est le peuple du récit. Tout est construit sur le récit. La Torah, toute cette narration-là, c'est un récit, c'est du récit.
Et ce récit, du coup, qui relève pas d'un vécu, il est plus sujet à interprétation, à une interprétation.
Il est sujet, il est devenu interprétable, parce qu'on va, on n'arrête pas d'interpréter ce texte. Ce texte-là, en fait, si vous voulez, en réalité, en termes de récit, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Bon, de facto, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas entré en Eretz Israël pendant 40 ans et qu'on est entré, on a dû faire la guerre, etc. Ça nous concerne très peu. Bon, disons là, on peut encore éventuellement comprendre, mais vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur les parchiotes. Il y a des parchiotes entières sur le Mishkan. Il n'y aura jamais de Mishkan construit par la suite. Jamais. Parce que même le Bet HaMikdash n'est pas construit sur le modèle du Mishkan. Donc ce n'est que pour l'étude. Que pour l'étude. Il y a plein de textes sur lesquels on sait très bien que bon, ça n'existera jamais, plus jamais. Ça a existé, mais bon, ça, on s'en fiche. Nous ne sommes pas des historiens ou des ethnologues ou des, je ne sais pas ce que vous voulez. Bon, on s'en fiche, ceux qui veulent, ils peuvent faire. Mais la Torah, ce n'est pas ça. La Torah, c'est des. On donne ici un mode de vie. Un mode de vie, c'est dans le mode de vie, il y a comment est-ce qu'il faut regarder le monde. Ça, on apprend. On va voir exactement ce qui s'est passé, ce qui va se passer, si vous voulez, dans ce texte-là. Justement, c'est ce problème-là de ce que ils ont vu des choses et au lieu de rapporter, à la limite, si vous voulez, c'est comme, vous voyez, si quelqu'un fait une expérience scientifique et que, au lieu de décrire exactement les choses, il donne son interprétation, on ne pourra rien en faire. Il pourra ouvrir son cahier de laboratoire 10 ans plus tard. Ah bon, j'ai vu que c'est voilà. Ou bien, les gens, les Baal et Moussa, ils disent qu'il faut écrire, il faut avoir un petit carnet dans lequel on marque un peu ce qu'on a fait, comment on a réagi. Mais si vous écrivez le 1er juin, je me suis mis en colère, vous ne pouvez rien en faire. Seulement, si vous écrivez le 1er janvier, je ne sais pas, il s'est passé telle et telle chose, objet, quel objet, et je me suis mis en colère. Alors ça, vous allez pouvoir le voir parce que vous allez regarder, hein, est-ce qu'il y a plusieurs fois que je me suis mis en colère à la suite d'un événement de ce type-là? Alors vous saurez que vous êtes ultra sensible, par exemple, et que ces situations-là, elles vous mettent en colère. Alors vous pouvez commencer à vous demander pourquoi je me mets en colère dans cette situation-là. Mais si vous notez seulement que vous êtes mis en colère, vous pouvez le mettre à la poubelle, vous ne pourrez jamais rien en faire. Donc, il y a une très grande différence, si vous voulez, entre l'information et le commentaire. Et c'est ça le problème. Et ça, c'est très actuel aujourd'hui, parce qu'on est dans une civilisation aujourd'hui du commentaire. Il n'y a plus d'information, il n'y a que des commentaires. N'importe quel crétin peut donner son commentaire. Il n'y a pas d'information. On ne vous donne pas les informations. On vous donne un commentaire. Et on ne peut rien en faire, un commentaire. Et c'est ça, le problème. La Torah, c'est justement un texte qui est du type information et qui invite au commentaire. Mais on ne nous met pas le commentaire dans la Torah. On dit exactement qu'est-ce qu'ils ont fait, quels arguments ils ont utilisés. Là, on entend, on voit exactement comment ça se passe. Et on peut apprendre quelle est la stratégie du Yetzer Hara pour nous faire échouer dans certaines situations. D'accord ? Il ne nous permet pas de prendre le recul nécessaire. C'est paradoxal, mais il faut du recul pour voir l'information et la détacher d'un commentaire. Tu peux mettre ensuite un commentaire, mais j'ai besoin de l'information. Tu mets ton commentaire, il sera bon ou pas. Mais donne-moi l'information brute. Donne-moi l'information. Il n'y a pas d'informations. Hein. Grande partie de toute cette explosion d'antisémitisme aujourd'hui, elle vient de ce qu'il n'y a que des commentaires. Donc, pas du tout d'informations. Alors, c'est vrai que l'information, elle est souvent biaisée. Le problème, c'est comment est-ce que je regarde? On regarde tous avec des a priori. On a tous d'abord, premièrement, objectivement, on ne voit par exemple pas les couleurs de la même manière, mais on ne voit rien de la même manière que l'autre. Ce n'est pas seulement que je commente, mais même la vision. Ma vision, ce n'est pas votre vision. Bon. De manière, on ne voit pas les choses de la même manière si on est, quand on est jeune, quand on est plus âgé, quand on est un homme, quand on est une femme, etc. Quand on est, quand on est riche, quand on est pauvre, etc. Tout ça, ça intervient dans le regard lui-même. Et il faut être critique par rapport à ça. Il faut dire, savoir, je regarde les choses de cette manière-là parce que je suis ce que je suis. Et ça va être très, très important. Il va y avoir une explication des Chachamim. Ils disent ça en un seul mot. Dans les textes de Echa, le texte de Echa, qu'on lit donc, c'est ce qu'on appelle les Lamentations de Jérémie, je crois, comme ça qu'on traduit. Les chapitres 2, 3 et 4, c'est toujours les acrostiches, c'est toujours par ordre alphabétique, quoi, l'acrostiche. Et dans le 2, le 3 et le 4, la lettre P, elle est avant la lettre Ayin. Il y a une erreur. Normalement, dans l'alphabet, là, vous pouvez vous réciter l'alphabet, on dit Ayin P. Et dans la valeur numérique, par exemple, Ayin c'est 70 et P c'est 80. D'accord ? Donc, le Ayin vient avant la lettre P. Il se trouve que Ayin et P, c'est les noms des lettres, mais Ayin c'est l'œil et la lettre P c'est la bouche. Donc, en fait, normalement, l'œil vient avant la bouche. L'information vient avant le commentaire. Et eux, on dit justement dans le texte de Echa qu'ils ont parlé, enfin, le texte est construit avec des versets, un verset sur la lettre P avant le verset sur la lettre Ayin. Donc, ils ont inversé l'ordre. Ils ont Igdimu P la Ayin. On a fait passer la lettre P avant la lettre Ayin. Chazal demande, c'est Gemara dans Sanhedrin, Rabbi Yochanan demande, mais pourquoi? Excusez-moi, il ne demande pas pourquoi, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce Echa, la destruction du Beth Amikdash, elle vient de quoi? Elle vient de ce que les explorateurs ont fait passer le P avant le Haïn. C'est-à-dire, ils ont parlé avant d'avoir vu. Ils ont même parlé avant d'avoir vu, parce qu'ils n'ont jamais vu. Une grande partie de ce qu'ils disent est complètement faux. Mais pourquoi? Parce que, là, il va falloir, là, du coup, il va falloir essayer d'expliquer pourquoi ils ont regardé les choses de cette manière-là. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. C'est ils ont parlé avant d'avoir vu, et du coup, leur vision était gouvernée par la parole. Ils voulaient voir ce qu'ils avaient dit. Ils voulaient voir, en vérité, ce qui corroborait leur théorie, quoi. Et donc, quand ils ont vu ce qui se passait, ils ont dit, le pays bouffe ses habitants. C'est vrai que c'était difficile de voir que Hachem, mais eux, ils sont habitués à ça depuis la sortie d'Égypte. Jusqu'à maintenant, ils n'ont que des miracles. Ce sont des gens qui vivent avec la manne, ils mangent de la manne, ils boivent l'eau du puits de Myriam, un rocher qui se balade avec eux. Ils sont protégés par des nuées. Rien ne s'use, rien ne s'abîme. Mais ils sont obligés, ils sont dans la dépendance permanente. N'est-ce pas ? On peut pas faire de, ils ne peuvent pas faire d'économie. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, je vais manger moins de manne, j'en aurai plus demain. Si tu laisses la manne d'aujourd'hui, elle pourrit. Donc, tous les jours, on est dépendant d'Hachem. Tous les jours, je me sens, je n'ai pas de quoi manger. Quand ils se lèvent le matin, ils n'ont pas de quoi manger. Donc, ils ont vu, ils n'ont pas vu combien de manne ils ont. Et la manne, elle tombe à une distance de leur maison qui dépend du niveau moral qui est le leur à ce moment-là. Donc, ils ne peuvent jamais se raconter l'histoire. Ils ne peuvent pas dire, ouais, je suis pas mal, d'accord, j'ai des petits fesses. Non, exactement, pouf, tu sais exactement où tu en es. Aujourd'hui, la manne, elle est tombée un kilomètre plus loin qu'hier. Donc, ça veut dire que tu as dégringolé. Ah, aujourd'hui, c'est mieux. Ça fait du progrès. Tu ne peux rien te raconter. C'est une dépendance. Et ça, ils ne le supportent pas. On va voir qu'ils vont arrêter, ils vont murmurer contre Moshe, etc., contre Hachem pendant 40 ans, ce sujet-là. Parce que c'est très difficile à vivre. C'est extraordinaire, on est dans les mains d'Hachem en permanence, mais c'est dur. Quelque part, on aime bien exister. Ils mangent de la manne, vous souvenez, on mange de la manne elle a le goût qu'on veut. Et donc, il n'y a jamais de satisfaction du désir. La satisfaction du désir, c'est j'ai envie de quelque chose et ça te prend un certain temps jusqu'à ce que je l'ai. Tu veux que ce soit des framboises, c'est des framboises. Tu veux que ce soit un steak pommes frites, c'est un steak pommes frites. Tu n'as pas le temps. Il n'y a pas de désir. C'est pour ça qu'on a vu la semaine dernière. Ils ont désiré du désir. Il n'y avait pas de désir. C'est une autre vie quand il n'y a pas de désir. C'est délivré des désirs matériels, en tout cas. Tous tes désirs, tu peux les tourner dans le spirituel, c'est tout. En spirituel, effectivement, tu veux arriver à un certain niveau, il va falloir travailler. Et donc, ici, on a affaire à une erreur. D'accord ? Une erreur fondamentale de Igdimu Pelaïn. Ils ont fait passer la lettre P avant la lettre Aïn. Et donc la bouche avant l'œil. Donc le commentaire avant l'information. Alors pourquoi ? C'est compliqué. Ces gens-là, ils sont des tzadikim au départ. Et là, en entrant dans ce pays, ils deviennent des rechaïm. Ils deviennent des gens qui s'intéressent à eux et pas vraiment au bien-être du peuple, ni à la façon dont on va obéir à Hachem. Et pourquoi donc ? Parce que eux étaient des chefs. Ça veut dire qu'ils étaient adéquats pour gouverner des gens, des nomades, disons. Des nomades, mais c'est des nomades où ceux qui les gouvernent n'ont pas du tout à s'assurer qu'ils auront à manger, à boire, qu'ils soient protégés, ils n'ont pas. A priori, normalement, ils n'ont que des problèmes spirituels à régler. Quel problème ? Ils n'ont pas de problème matériel à régler, tout est réglé. Donc en fait, cette génération-là s'appelle Dor Dea, la génération du Daat, du discernement, de la connaissance, c'est des gens qui vivent à un niveau, ils vivent au ciel, pas quasiment. Ils n'ont pas de problème matériel du tout à régler. Et donc, eux sont des chefs adéquats pour une population dans cette situation-là. Quand ils sont entrés en Eretz Israël, dans le pays d'Israël, Eretz Canaan, ils ont compris que la Torah qui est la leur, la Torah, si vous voulez, assez abstraite, assez théorique, etc., avec laquelle ils travaillent dans le désert. Ils travaillent, les chiites. Cette Torah-là, maintenant, elle va arriver, elle doit s'actualiser sur le terrain, en fait. La Torah, elle a été donnée pour ça. Elle a été donnée pour se réaliser concrètement dans le monde. Et pas simplement dans les spéculations. Et ça, ils ont compris que ça, c'est pas, ça ils ne savent pas faire. Ils ont compris qu'ils ne seraient pas les chefs des tribus quand le peuple entrera en Eretz Israël. Mais je voudrais dire une chose, c'est je ne crois pas qu'il faille l'expliquer en disant c'est un problème, ils ne voulaient pas lâcher le pouvoir, etc. C'est peut-être vrai, mais il y a une dimension qu'il faut ajouter. Donc, vous allez comprendre avec quelque chose que vous connaissez bien. Quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu qu'il n'entrerait pas en Eretz Israël, alors, Moshe Rabbeinu l'a essayé. Il a essayé de prier. Il a essayé d'arracher quand même la permission d'entrer. Et comme Moshe Rabbeinu savait comment il fallait prier, s'il avait insisté, il l'aurait arraché, cette permission. Hachem lui a dit, arrête de prier. Bien sûr que tu sais comment il faut faire, tu l'auras. Tu l'aurais si tu insistais. Je te demande d'arrêter de prier. Pourquoi? Parce que ce serait mauvais pour le peuple. Ce n'est pas bon pour toi non plus, mais surtout pour le peuple, c'est mauvais. Alors Moshe a dit, ok, je ne peux pas entrer comme leader. Parce qu'une des réponses qu'Hachem lui dit, quand il a insisté, il lui a dit, mais tu ne peux pas parce que tu empiéterais sur le territoire de Yoshua. C'est Yoshua qui doit faire entrer les Bnei Israël en Eretz Israël. Alors Moshe a dit, ok, mais je ne veux pas du tout entrer comme chef, je veux entrer comme simple citoyen. Hachem lui a dit, tu veux vraiment entrer comme citoyen? Il dit, oui, je veux entrer. Il a dit, ok, on va voir. Alors Hachem leur fait faire une expérience. Alors Hachem l'a transporté, et puis bon, Yoshua est entré dans le Ohel Moed, il a parlé avec Hachem, il a reçu les ordres d'Hachem, et quand il est sorti, Moshe Rabbeinu s'est précipité vers Yoshua, et il lui a demandé, qu'est-ce qu'Hachem a dit? Alors Yoshua a dit, Moshe, mon maître, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu sortais, toi, d'avoir parlé avec Hachem, et que tu avais des choses à dire, tu convoquais ton frère, Aaron, et tu enseignais à Aaron ce que Hachem t'avait dit. Ensuite, Aaron venait s'asseoir à ta droite, et tu convoquais les fils d'Aaron, et tu enseignais devant Aaron ce qu'Hachem t'avait dit au Bnei Aaron. Et les Bnei Aaron s'asseyaient à ta gauche. Puis ensuite, on appelait les chefs de tribu, les uns après les autres, etc. Et à chacun, Moshe Rabbeinu enseignait, et les gens avaient de telle sorte qu'ils entendaient tous plusieurs fois l'enseignement, et peut-être même plusieurs fois un enseignement. Peut-être qu'ils arrivaient à l'entendre comme l'entendaient ceux qui étaient là. Parce qu'évidemment que Aaron n'entendait pas de la même manière que ses fils, ni ses fils que les chefs des tribus, ni les chefs des tribus que monsieur, madame, tout le monde. Alors, Yoshua a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, toi, ta place, tu es au 560 millième à écouter la Torah. Alors, Moshe Rabbeinu a dit non, dans ce cas-là, je préfère mourir. Pourquoi? Parce que il faut savoir que d'entendre la parole d'Hachem, c'est l'acmé du plaisir. Il n'y a pas de jouissance plus grande que d'entendre la parole d'Hachem. Chez nous, à notre échelle, c'est aussi de comprendre la parole d'Hachem, c'est extrêmement jouissif. Et entendre la parole d'Hachem à la troisième place, ou à la millième place, ou à la 500 millième place, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, Moshe Rabbeinu n'était pas, il ne pouvait pas supporter. Il a dit, je préfère mourir que de supporter ça. Donc, c'est ce qui s'est passé, je pense, avec les Meraglim. Quand on dit qu'il ne voulait pas, ce n'est pas qu'il ne voulait pas lâcher le pouvoir en tant que tel. Mais ne plus être les chefs, ça voulait dire aller entendre la Torah comme monsieur tout le monde, et pas comme ils avaient l'habitude de l'entendre. Donc, c'est quelque chose qui était insupportable. C'est pas le pouvoir, les ors du pouvoir ou la capacité de, je sais pas, de faire ce qu'on veut, des choses comme ça. C'était autre chose. C'était une expérience spirituelle. Une expérience spirituelle qui n'existait plus de la même manière que du tout avec cette intensité, etc. À partir du moment où il n'était plus le chef. Et ça, c'était insupportable. Vous pouvez dire, certains veulent l'expliquer comme ça, que c'était simplement l'amour du pouvoir, ils ne voulaient pas lâcher le pouvoir. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'était cette génération. Et que ce que je vous dis là, je pense que d'abord, c'est sûrement vrai, je pense que ça colle beaucoup mieux avec ce qu'on sait de cette génération qui est le Dordéa quand même. C'est vrai qu'ils ont fait des fautes, tout ce qu'on veut, mais et que nous, on a beaucoup de difficultés à comprendre. Alors, ces gens qui ont... ils n'arrêtent pas de dire on va retourner en Égypte. Alors, il faut savoir que cette histoire de retourner en Égypte, c'est quelque chose qui est dans les tripes du peuple. Quand Hachem a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, c'est marqué au début de Parshat Beshalach, Hachem les a pas fait passer par Eretz Plishtim, le chemin le plus court de l'Égypte en Israël, c'est de passer par Gaza. Il est passé le long de la côte, mais ça, c'est Gaza, c'est Eretz Plishtim, le pays des Philistins, des Palestiniens, des Philistins. Et ça, c'est les ennemis de toujours des Bnei Israël. Et donc, il faudrait faire la guerre. Et Hachem dit, je ne les fais pas passer par là, de peur que voyant la guerre qu'ils auraient à livrer contre les Plishtim, ils fassent demi-tour et qu'ils retournent en Égypte. Donc, au moment de la sortie d'Égypte, Hachem dit, il y a un risque qu'ils retournent en Égypte. Et en fait, il fait faire le détour, et malgré tout, ils n'arrêtent pas de dire, on va retourner en Égypte. L'histoire de... C'est quoi? En fait, ces Juifs-là, c'est les Égyptiens. Ils sont juifs, mais ils sont égyptiens. Ça fait 210 ans, en tout cas, qu'ils sont en Égypte. Donc, une grande partie en tant qu'esclaves. Plusieurs générations ne connaissent rien d'autre que l'Égypte. Le Rambam dit, on a tout oublié, quasiment tout oublié, de l'enseignement d'Abraham Avinu, quand on était en Égypte. Il en est resté les traces dans la tribu de Lévi, mais c'est tout. Donc, ce sont des Égyptiens. D'une certaine façon. Ils n'arrêtent pas de dire non, ça ne va pas, on va retourner en Égypte. Mais l'Égypte, c'est le pays de la mort. Et on préfère mourir en Égypte que mourir comme ça. Mourir dans le désert. Comme il disait à Moshe, nous a amené à crever dans le désert, on aurait préféré mourir en Égypte. Oui. Mourir en Égypte. Avec les fantasmes sur l'Égypte, on était nourris, c'était des esclaves, ils crevaient de faim, évidemment. Non, le fantasme, c'est qu'on avait du poisson, on pouvait en avoir. Le Nil fournissait suffisamment de poissons, ça ne coûtait rien probablement. Donc le poisson l'aura peut-être donné. Mais les fameux légumes dont il parle, etc. Et c'est intéressant, et je vais juste terminer avec ça. Quand ils se plaignent, les Bnei Israël, quand ils se plaignent de la manne, ils utilisent une drôle d'expression. Nous, quand on veut dire qu'il n'y a rien, on dit rien, c'est le néant. Et eux, ils disent, ein kol, il n'y a pas tout. Dans la manne, il n'y a pas tout. C'est à tous les goûts que tu veux, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas? Ce que je vous ai dit avant, il n'y a pas le désir.